Léa Salamé, votre invitée ce matin, est la garde des Sceaux.
Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'était un des engagements forts d'Emmanuel Macron, lutter contre le fléau de la surpopulation carcérale. Vous présentez ce matin votre plan prison. Beaucoup ont essayé avant vous de réduire la surpopulation carcérale. Ils se sont cassés les dents. Pourquoi vous ferez mieux que les autres? Pourquoi votre plan sera plus efficace?
Parce que c'est un plan global. C'est-à-dire que, au fond, ce que nous faisons, c'est d'abord réécrire l'échelle des peines avec la volonté d'avoir des peines qui soient à la fois plus efficaces, donc un tout petit peu différentes dans l'échelle qui est proposée, et mieux exécutée, avec la volonté de dire à nos concitoyens, quand une peine est prononcée, elle est exécutée. Donc, on part de l'échelle des peines et à partir de là, on construit, on modifie le régime de détention, le cas échéant, et on s'occupe des personnels.
Vous allez nous expliquer précisément chacun des points. La surpopulation carcérale a battu un nouveau record cet été. Absolument. Il y a plus de 70 000 détenus dans les prisons françaises pour moins de 60 000 places. Combien de places de prison allez-vous construire d'ici la fin du quinquennat?
Alors, nous avons pris l'engagement de construire 7 000 nouvelles places et nous allons entamer un processus de construction de 8 000 autres places, mais qui ne pourront pas être livrées d'ici la fin du quinquennat. Donc 7 000 plus 8 000, nous sommes dans l'engagement présidentiel des 15 000 places.
En tout cas, celles qui sont certaines, c'est les 7 000.
Absolument.
Ceux qui sont condamnés à une peine de moins de 6 mois pourront la purger soit chez eux, avec un bracelet électronique, soit via le travail d'intérêt général. C'est ce que vous annoncez ce matin, notamment, pour désengorger les prisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets?
Alors, ce n'est pas pour désengorger les prisons. Nous sommes partis du constat, je vous le disais à l'instant, qu'une peine doit être efficace. Que pour être efficace, il nous semble que dans certaines hypothèses, il y a une désocialisation qui peut être évitée, ou bien des ruptures qui pourraient être plus fatales que bénéfiques. Et donc, nous proposons d'autres types de peines que l'emprisonnement. Ce qui ne veut pas dire que l'emprisonnement ne sera pas possible dans des cas où il n'y aurait pas d'autres solutions. Mais nous disons que sur des peines courtes, pour lesquelles nous risquons des sorties sèches, sur lesquelles nous savons que la récidive est forte, il peut y avoir d'autres peines.
Alors expliquez-nous, donnez-moi des exemples.
Eh bien, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aurait, par exemple, commis une infraction importante au code de la route et qui devrait purger une peine de prison, doit-il aller dans une maison d'arrêt, côtoyer des publics avec lesquels il n'a pas à faire grand-chose? Ne vaut-il pas mieux lui proposer, par exemple, un travail d'intérêt général dans un hôpital ou je ne sais dans quel autre endroit qui a un lien avec l'infraction qu'il a commise et sur laquelle il pourrait, me semble-t-il, avoir une peine plus efficace.
Les peines alternatives, ce dont
elles
vous nous parlez...
Elles ne sont plus alternatives.
Non. C'est des peines alternatives à la prison.
Ce seront des peines pleines et entières. Et en ce sens, nous modifions le code pénal. C'est plus qu'un signe. C'est-à-dire que non seulement nous en faisons des peines en elle-même, et en plus, nous allons renforcer les moyens de leur suivi.
Sortir de la philosophie de l'emprisonnement à tout prix, c'est ce qu'a essayé de faire Christiane Taubira, votre prédécesseur. Vous vous souvenez de la bronca que ça avait suscité? Taubira laxiste, Taubira démission. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous retombe dessus?
Je n'ai pas peur, parce que nous affirmons que toute infraction connaît une sanction. Et donc, toute infraction aura une peine. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut faire attention et donner les moyens aux magistrats, aux tribunaux correctionnels, quand ils prononcent les peines, il faut leur donner les moyens de prononcer des peines qui soient adaptées à la réalité de la situation de la personne qui est prévenue et condamnée.
J'ai vu aussi que vous allez construire de nouveaux établissements ou de nouvelles structures, les SAS, les structures d'accompagnement vers la sortie. Qu'est-ce que c'est? Où ça va être construit? Combien ça va coûter?
Alors, ce sont effectivement, nous comptons proposer cette nouvelle structure parce que nous sommes là aussi dans l'idée que nous ne pouvons pas construire des prisons qui soient identiques pour tout le monde. Nous devons avoir des prisons de haut niveau de sécurité pour les détenus qui sont les plus dangereux, mais nous pouvons également prendre acte que une fois la peine effectuée, il faut assurer la réinsertion. L'objet de la prison, c'est la sécurité de la société et la réinsertion du détenu. Pour assurer cette réinsertion, nous pensons que soit pour des courtes peines et des détenus peu dangereux, soit pour des fins de peine pour lesquelles nous avons cette obligation de réinsertion, nous devons avoir des structures qui vont accompagner le détenu vers la sortie. Donc,
où
des structures
seront construites,
qui seront plutôt en centre-ville, parce qu'il faut que les services publics de l'emploi, du logement, de l'éducation puissent réellement se rendre dans ces structures.
Vous voyez déjà le refus des maires des villes disant « moi je ne veux pas ça chez moi ».
Mais Madame Salamé, ne vous trompez pas. Il y a des élus qui nous demandent des établissements de haut niveau de sécurité, parce que c'est aussi de l'emploi, c'est aussi une activité économique, et c'est aussi la prise en charge d'une réalité sociale. Donc, nous avons déjà des lieux, nous n'allons pas...
Où?
Dans les centres-villes.
Mais alors, donnez-moi des exemples.
Il y en a à Paris, il y en a dans d'autres villes. Je ne dévoile pas aujourd'hui même la carte, mais j'ai promis que je le ferai au moment de la présentation de la loi.
Tout ça va coûter de l'argent. En cette période de vaches maigres, vous êtes une des rares chanceuses du gouvernement, puisque votre budget va être augmenté de 25% d'ici la fin du quinquennat. Combien d'augmentations dès l'an prochain? Que prévoit le budget 2019 pour le ministère de la Justice?
Vous allez avoir le budget dans quelques jours, donc je ne vais pas le préempter, mais vous savez, lorsque j'ai
présenté... sera en augmentation.
Bien sûr, bien sûr.
2019, le ministère
absolument.
De la Justice.
C'est une augmentation linéaire et je crois que nous serons autour de 4% d'augmentation dès l'année prochaine. Pour les prisons, c'est 1,7 milliard d'euros qui seront consacrés à la construction de ces établissements pénitentiaires. Et par ailleurs, d'ailleurs, je dois dire aussi que nous allons construire des centres de détention sur lesquels nous adapterons le régime de détention en installant des quartiers à la fois de très haute sécurité, mais aussi des quartiers de régime dit de confiance, qui permettront de passer un contrat avec les détenus et de leur laisser dans l'établissement de détention un peu plus de liberté et d'activité.
Plus de 40 000 téléphones portables ont été saisis l'an dernier dans les prisons françaises. Vous voulez lutter contre cela. Manifestement, ça n'a pas suffi, puisque cet été encore, on a vu des selfies de Booba et de Kaaris envoyés depuis les cellules de ces deux rappeurs et des autres détenus. Est-ce que vous vous êtes dit que c'est insoluble comme problème, en fait?
Non, je ne crois pas que ce soit insoluble. Nous venons... D'abord, la sécurité dans les établissements de détention, c'est une de nos préoccupations. Nous avons consacré beaucoup d'argent à cela et nous allons continuer. Nous allons, pour les téléphones portables, nous avons passé un marché de brouillage efficace qui commence à être déployé. Il le sera en premier dans la prison de la Santé, où évidemment le déploiement est délicat puisque nous sommes vraiment en centre-ville. Mais si ça marche là, ce dont nous sommes sûrs, je pense que ça fonctionnera partout ailleurs et ce sera, je crois, efficace.
Madame la garde des Sceaux, si vous me permettez, je passe à un autre sujet. Alexandre Benalla a finalement accepté hier vers 22h, après avoir dit le contraire toute la journée, de se rendre devant la commission d'enquête sénatoriale. Est-ce qu'il fait bien d'y aller?
Alors moi, je ne suis pas le conseil juridique de M. Benalla, contrairement à ce que j'ai pu lire hier.
Philippe Bas, le sénateur, vous a accusé d'être le conseil juridique de
je
l'avocat
ne suis donc pas
de Madame
le conseil de juridique de M. Benalla. Je rappelle simplement les principes. D'abord, je voudrais dire que j'ai évidemment beaucoup de respect pour les commissions d'enquête du Parlement, qui exerce légitimement son droit de contrôle. Et nous souhaitions d'ailleurs, dans la révision constitutionnelle, accentuer ce pouvoir de contrôle du Parlement, en général. Sur l'affaire précise dont vous me parlez, j'ai simplement rappelé les principes. Ces principes, me semble-t-il, sont au nombre de deux. D'abord, il ne doit pas y avoir d'interférence entre une commission d'enquête parlementaire et une information judiciaire. Pourquoi ? Au nom de la séparation des pouvoirs et parce que la garantie des droits pour la personne qui est en cause n'est pas la même devant le Parlement et devant l'institution judiciaire. C'est tout simple.
Oui, mais ça, c'était acté, pardonnez-moi, il n'allait pas poser des questions l'enquête judiciaire.
La
question est simple, Madame la Ministre. Est-ce que vous avez réagi trop vite?
Mais non, je n'ai pas réagi trop vite. Mais écoutez, Madame Salamé, je ne réagis pas trop vite en réaffirmant des principes qui sont inscrits dans notre Constitution et dans les ordonnances qui en découlent. Donc, je vous le disais, deux principes, celui que je viens de rappeler, et c'est vraiment important, mais évidemment, la commission d'enquête appréciera cela, la manière dont elle le met en œuvre. Il y a une deuxième règle qui découle de l'article 24 de notre Constitution, selon laquelle le pouvoir de contrôle du Parlement s'exerce à l'égard de l'action du gouvernement. Du gouvernement, les mots ont un sens.
Ça veut dire quoi?
C'est pas l'exécutif, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire, c'est l'action du gouvernement.
Donc ce serait illégitime d'entendre Alexandre Benalla?
Je ne parle pas...
Non, parce que là, c'est
ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous cherchez à me ramener là-dessus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'affirme des principes. J'affirme des principes. Un, le pouvoir de contrôle du Parlement est essentiel. Deux, il s'inscrit dans un cadre constitutionnel. Respect de la séparation des pouvoirs, je crois que c'est très important.
Est-ce que vous avez l'impression que cette commission d'enquête gère un règlement de compte politique?
Je ne l'imagine pas.
Alors, je vais vous la reposer la question avec les mots de Benjamin Griveaux qui a l'impression que le sénateur Philippe Bas est en train de faire une campagne politique personnelle contre le président de la République.
Moi, je reste sur le plan des principes, ceux que je viens de rappeler. Il va de soi que personne n'est dupe de ce qui se passe, de ce qui s'est passé cet été. de l'instrumentalisation de ce qui est tout de même une dérive au départ personnelle. Et il va de soi qu'il y a toujours une lecture politique à chacun de ces actes.
Donc vous y voyez une instrumentalisation. Est-ce que vous convenez quand même que depuis le début de cette affaire Benalla, vous avez l'exécutif à une gestion, disons, un petit peu impressionniste, un petit peu approximative?
Vous savez, moi j'étais au Parlement. J'étais au Parlement en permanence au mois de juillet. J'étais à l'Assemblée nationale. J'ai donc répondu à plusieurs reprises à différentes questions qui étaient posées. Je suis intervenue de manière systématique pour redire les principes. Je crois que c'est le rôle du garde des Sceaux.
Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, était avec nous. Belle journée à vous.